ta démarche, c'est ce que tu attends de moi, c'est que bon, tu aimerais que je fasse un petit topo un peu sur la question autochtone ou sur la question des rapports politiques entre la société dominante, mainstream, ou la société settler, comme on dit en cours. Comme on dit surtout aussi dans le langage du postcolonialisme ou des études postcoloniales, et la population autochtone. Bon, c'est évident qu'en 10 minutes, on ne peut pas faire le tour. D'une part, parce que l'histoire, elle est lourde, elle est longue, l'histoire de domination, l'histoire d'effacement, de tentatives réussies très souvent, d'effacement de l'autre, je dis très souvent, parce que pas toujours, parce que les peuples autochtones quand même sont encore là, sont encore ici, ils n'ont pas été effacés, au contraire, on voit depuis au moins une trentaine, quarantaine d'années, un mouvement de résurgence encore plus important au cours des, je dirais, des 10 ou 15 dernières années, un mouvement de résurgence autochtone, au point où, par exemple, les peuples autochtones, l'Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador, les Inuits, entre autres aussi, ont déclaré, et ce, par exemple, M. Picard récemment se disait « Je suis souverainiste, je suis Inuit ». Ça a fait mouiller, excusez l'expression, saliver plutôt les souverainistes qui pensaient qu'il y avait un Inuit de leur bord, mais ils leur disaient « Non, moi je suis Inuit, je ne suis pas un souverainiste québécois ». Et donc ça, c'est une marque, si vous voulez, c'est un exemple de ce mouvement de résurgence. On l'a vu aussi à travers des mouvements comme « I don't know more », dont vous avez sans doute entendu parler. On l'a vu à travers, bien sûr, aussi la grève de la faim de Mme Theresa Spence, c'est au moment où « I don't know more » a surgi autour des conditions terribles et inhumaines que l'on trouvait sur sa réserve à Attawapiskat, dans l'Ontario, dans le nord d'Ontario. Ce qui est important de voir, et c'est surtout là-dessus que je veux insister aujourd'hui, c'est me poser quelques questions, Karina, dont, entre autres, une remise en question profonde du statut de la société dominante dans un État libéral est-elle possible, à mon avis? Tu me demandes aussi, est-ce que la politique actuelle du gouvernement d'appui à l'autodétermination, pourvu que celle-ci ne menace pas le statut de la société dominante, cette forme de self-government, de self-government est-elle une libération réelle? Je vais un peu essayer de plancher sur ces questions-là, parce que je pense que c'est des questions fondamentales. Ce sont des questions fondamentales. Ce sont des questions qui nous amènent au cœur du sujet, c'est-à-dire la nature des rapports entre les peuples autochtones et la société des settlers, si vous voulez, donc la société québécoise, la société canadienne. Le grand problème vient du fait que, en ce moment, il y a une espèce d'incompréhension. Qui est lié à notre adhésion à des valeurs démocratiques libérales, qui sont des valeurs assez généreuses, qui embrassent, si vous voulez, la diversité. On dit embrasser la diversité si on regarde nos chartes. La charte québécoise, la charte canadienne, bien sûr, ce sont des chartes qui sont très généreuses, des chartes de droits de la personne. Donc, tout le discours des droits de la personne, des droits humains, est très, très fort, très prenant. Et en même temps, on se dit, ben, on a un beau discours comme ça, mais d'un autre côté aussi, on a une réalité souvent désastreuse dans plein de communautés. Pas dans toutes les communautés, mais dans beaucoup de communautés. Comment expliquer donc cet écart? Parce que finalement, c'est le grand problème. Comment expliquer cet écart continu entre le discours libéral, le discours libéral démocratique et la réalité sur le terrain? Comment expliquer l'écart continu entre une vision qui se veut généreuse, ouverte, inclusive et bien sûr la réalité sur le terrain qui en est une où effectivement l'effacement de l'autre est constant, où effectivement les cultures, en dépit du fait par exemple qu'au Québec en 1985 on a reconnu les cultures autochtones, on a reconnu les 10 nations autochtones, 10 Premières Nations et les Inuits, on a reconnu donc, si vous voulez, 11 peuples autochtones, et donc on reconnaissait aussi, en 1985, ça fait quand même un bail, on reconnaissait aussi leur habilité à pouvoir exister comme culture indépendante, autonome, etc. Et pourtant, à chaque fois que ces manifestations d'autonomie, de désir d'affirmation culturelle se manifestent, s'expriment, à chaque fois, c'est très souvent remis en question par la société dominante. Pourquoi? Et c'est une question qui me hante depuis des années. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre ou d'y avoir répondu, même dans mes travaux. Mais ce qui m'a, ce qui me, ce qui m'agite un peu, ce qui m'anime, si vous voulez, quand je pense à ça, c'est pas d'utiliser des mots comme colonialisme ou des mots comme racisme. Pour une raison, on peut l'utiliser peut-être dans le contexte de discussion savante comme ça, parce qu'il faut nommer les choses. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur discours, le meilleur langage à utiliser lorsque, par exemple, j'essaie de convaincre un membre de ma famille qui dit encore les Autochtones, encore ceci, encore cela, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils payent, ils ne payent pas de taxes, nous autres on en paye, ce genre de discours qu'on entend souvent. Et cette espèce de vision très souvent qui tend à écarter l'Autochtone, qui tend à écarter l'autre. Bon, c'est vrai qu'en soi, en elle-même, on peut dire qu'elle est raciste, on peut dire qu'elle est même colonialiste, mais je ne crois pas que ça aide beaucoup à faire avancer les choses de dire ça. Je pense plutôt qu'il faut se tourner vers une analyse des rapports de force, des rapports de pouvoir, des relations de pouvoir qui existent. Il faut comprendre la nature de l'hégémonie que nous exerçons en tant que settlers sur l'ensemble de la société québécoise, canadienne. Il faut comprendre aussi, et c'est ce que j'essaie d'expliquer quand je suis confronté à des gens qui se posent des questions, puis ils disent ben, pourquoi est-ce qu'on leur donne tant de choses, puis qu'ils n'avancent pas plus, puis comment ça se fait qu'il y a des réserves encore, etc., etc. Bref, ce que j'essaie de montrer, c'est que vous êtes ce à quoi j'essaie de montrer, ou de penser plutôt, c'est d'expliquer la nature des dynamiques de pouvoir qui existent dans nos sociétés. La dynamique de pouvoir, elle est très simple au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, c'est la même chose aussi, on pourrait dire aussi c'est la même chose en Amérique du Sud à certains égards. Il y a eu une tentative très réussi de s'approprier le sol, le territoire, par des Européens. Vous savez, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Cette tentative qui, au fur et à mesure où on avançait dans la pensée libérale, où la pensée libérale s'est sophistiquée de plus en plus, et qu'il y a eu une sensibilité libérale qui a fait en sorte que ça devenait de moins en moins justifiable et acceptable de mettre... d'exploiter ou d'effacer ou de faire disparaître d'autres groupes nationaux ou sociaux. On a cherché justement à constamment justifier cette approche, justifier cette pratique. Et on l'a justifié de différentes manières. Je pense que votre travail en traductologie peut être intéressant parce que parfois, si je comprends bien ce qui se fait un peu en sémiotique, en traductologie, on essaie justement de déchiffrer, de décoder la représentation, la façon dont on voit le monde, la façon dont le monde est présenté à d'autres. De façon, on justifie aussi. Et ce qui est arrivé, je pense que quand on parle quand on veut saisir la nature politique ou de la dynamique politique, c'est une dynamique de justification du pouvoir, je dirais, injustifiable que les Européens se sont arrogés en venant ici. D'abord, le territoire. Première chose, on prend le territoire à personne. Il n'y a personne ici. Terra nullius, le concept de terra nullius. On n'enlève rien à personne. Il n'y a personne ici. Hein? Et c'est en passant, c'est un concept qui jusqu'à pas tellement longtemps, était même utilisé dans notre jurisprudence. C'est pas grave, on leur prenait rien, il n'y avait personne. Alors que c'est tout à fait faux, il y avait des gens à qui ne demandaient rien à personne, qui vivaient leur petite vie, et puis qui finalement, on a eu tendance à écarter. On a voulu les écarter simplement parce que, entre autres, et ça, quand je parle d'hégémonie puis de rapport de pouvoir, il faut pour moi, lier ça à la réalité économique du désir d'appropriation territoriale, du désir d'appropriation, de développement aussi des potentialités en termes de ressources, minières, forestières, etc. Puis ça ne remonte pas juste aujourd'hui, ça remonte assez longtemps. Et donc, l'Autochtone était dans le chemin, si je puis dire. L'Autochtone était un obstacle. Un empêcheur de tourner en rond. Et ce qu'on a fait, c'est que graduellement, avec l'histoire, au début, c'était pas si mal. L'Autochtone, on le voyait comme une nation, c'est-à-dire qu'il y avait des nations autochtones. On a même, pendant longtemps, pendant à peu près 200 ans après Cartier et Colomb et tous ces gens, jusqu'au 18e siècle, en fait, début 18e siècle, on voyait l'Autochtone comme un égal, c'est-à-dire comme une autre nation, comme quelqu'un avec qui on peut faire des traités, on peut faire du commerce, des trucs comme ça. À tel enseigne que même en 1701, il y avait la Grande Paix de Montréal, on disait, OK, c'est correct, on va arrêter de se chicaner, on vous reconnaît tous comme étant des nations indépendantes, puis on va essayer de sceller une alliance de façon à ce qu'on puisse faire du commerce ensemble. Mais peu à peu, ça s'est effrité, et surtout à la fin du 18e siècle, lorsque les Anglais ont conquis la Nouvelle-France et le Québec, et ce qui va devenir le Canada plus tard, il y a eu la proclamation royale qui disait essentiellement aux Autochtones, « Faites-vous en pas, on va vous protéger, on va vous garder vos terres, etc. etc. » Les Autochtones, les peuples autochtones en général prenaient ça assez bien parce qu'ils voyaient ça comme une espèce d'accord de respect mutuel, si vous voulez, c'était une espèce de traité, dans le fond. C'est correct, vous venez ici, vous nous protégez, vous nous garantissez la protection de la reine, du roi plutôt, à l'époque, c'était le roi. Ça peut aller. Sauf qu'on est allé vers deux interprétations tout à fait différentes. Pour les Autochtones, c'était, vous venez ici, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on vous donne notre territoire. Alors que pour les Européens, c'est-à-dire les Britanniques dans ce cas-ci, c'était, ces traités-là nous permettent justement de nous arroger le territoire, de prendre le territoire. On va vous protéger, mais en réalité, ce territoire-là, nous le contrôlons. Et cette tension, si vous voulez, cette incompréhension fondamentale va perdurer de plus en plus à travers le 19e siècle et par la suite, bien sûr, au 20e siècle, où essentiellement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de carrément tasser l'Autochtone, ou même de le traduire, de l'assimiler ou de le faire disparaître carrément. Ça a été, par exemple, vous avez sans doute entendu parler des pensionnats. Le but des pensionnats, c'était ça, c'était justement d'effacer l'Indien, de faire en sorte que l'Indien disparaisse carrément. On lui enlève sa langue, on lui enlève son identité culturelle, on lui enlève son identité propre, individuelle, son identité collective. Tout ça, c'était justement avec les pensionnats, de forcer les jeunes autochtones à aller dans les pensionnats. L'idée de ça, c'était l'effacement. Le but de ça, c'était l'effacement. Donc, constamment, l'État libéral canadien, l'État libéral démocratique canadien, se cherche des... Parce que, je pense, en quelque part, on réalisait bien que, surtout maintenant, on le voit avec la Commission sur la vérité et la réconciliation, on voit bien qu'il y a eu il y avait des actes qui n'étaient pas nécessairement moralement défendables, sauf que, constamment, on a cherché à justifier ces actes moralement indéfendables en se disant ce que l'on fait, c'est pour le bien de ces gens-là. Ce que l'on fait, ces cultures sont inférieures, ces cultures sont barbares, ces cultures sont inaptes à assurer le développement. Quand je dis ces cultures, je parle bien sûr des cultures autochtones, sont inaptes à assurer le développement correct de ces territoires. De sorte que, dans le fond, on leur rend service. Cet effacement auquel nous procédons, c'est de leur rendre service. Et finalement, l'État libéral, de façon générale, la société canadienne, québécoise-canadienne, s'est toujours défendu, en quelque sorte, en disant qu'on leur rendait service, qu'on faisait une bonne chose pour eux. Et ça... Et là, je passe rapidement sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de décennies et d'histoires, de pratiques souvent plus négatives et détestables les unes que les autres. Mais l'idée, c'était justement de faire disparaître l'Indien. Jusqu'à environ 1969... 1970, en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, en 1969, en fait, le gouvernement Trudeau de l'époque a présenté un livre blanc. Le livre blanc, c'était justement pour mettre à faire. On avait eu une commission d'enquête dans les années 60, la commission d'enquête sur la situation économique des Autochtones, en fait, des Indiens. À l'époque, on disait des Indiens. Et puis, ce qui avait été présenté dans cette commission d'enquête-là, c'était qu'on devrait plutôt considérer les Indiens, les Autochtones, comme des « citizens plus », comme des « citoyens plus ». C'était la recommandation principale de cette commission d'enquête, la commission Hawthorne, et Hawthorne Tremblay, en fait. Et le gouvernement Trudeau a complètement laissé ça de côté, il a dit non, ce qu'on va faire, c'est vrai qu'économiquement, c'est pas valorisant leur situation, on comprend ça, on l'a appris avec la commission d'enquête, mais ce qu'on va faire, on va faire en sorte que tous ces gens-là soient comme nous, Et c'est là la grande finalement, le fondement même de l'État libéral, c'est malgré sa décision ou son désir, sa volonté d'embrasser, d'inclure, etc., etc., c'est, on le fait, oui, on inclut la diversité, tant que cette diversité ne remet pas en question la norme fondamentale, la norme dominante. Tant que cette diversité ne remet pas en question non plus la position hégémonique, ici dans le cas au Canada, des settlers. C'est intéressant parce qu'en 69, avec le Livre blanc, c'est justement ce qu'on a essayé de faire. OK, les Autochtones, vous êtes tous des Canadiens, sur le même pied d'égalité, plus de réserves, plus de lois sur les Indiens, plus de mise à l'écart, vous êtes des Canadiens comme tout le monde. Quand on conçoit ça comme ça, et même à l'époque, je pense que, honnêtement, M. Trudeau, M. Chrétien, à l'époque, quand ils ont conçu ça, je pense qu'ils pensaient faire une bonne affaire. Ils pensaient, honnêtement, être corrects. On va arrêter de considérer les Autochtones comme des citoyens de deuxième classe. Et finalement, c'est pas ce qui s'avérait être, dans le fond, c'est-à-dire, vous disparaissez, carrément, vous disparaissez, vous n'êtes plus vous avez, il n'y a plus de questions de statut différents, etc., etc. On enlève tout ça, vous disparaissez, au fond, vous êtes des Canadiens comme tous les autres. Et l'idée, c'était justement d'inclure, mais en même temps, de faire disparaître les Autochtones. Ça a très mal passé, à telle enseigne que le gouvernement l'État canadien, à l'époque, le gouvernement canadien de M. Trudeau a retiré son livre blanc. Et 6 ans plus tard, c'est ce qui est intéressant, c'est que 6 ans plus tard, et c'est là où on voit, je parlais de mouvement de résurgence, on peut vraiment le montrer, le dater à peu près à partir de ce moment-là, c'est que le livre blanc a en quelque sorte donné un coup d'envoi, si vous voulez, à un mouvement de résurgence et de résistance autochtone. À l'époque, les Autochtones avaient dit non, ça c'est inadmissible parce que vous allez nous faire disparaître. Même si on faisait disparaître, on abolissait une loi inique finalement qui existe encore aujourd'hui, la loi sur les Indiens, même si on la faisait disparaître, c'était pas ça parce qu'on leur enlevait leur identité. Et c'est là l'effet pervers de la loi sur les Indiens, c'est que ça leur permettait aussi leur permettait de se maintenir dans leur identité, dans leur culture. Mais là, en faisant disparaître tout ça, on les faisait disparaître, il n'y avait plus vraiment de revendication qui puisse vraiment tenir la route, puisqu'ils étaient des Canadiens comme tout le monde. Ils auraient été des Canadiens comme tout le monde. Alors ça, il y a eu un mouvement de résistance contre ça, et ça s'est manifesté, par exemple, au Québec, entre autres, par la résistance des cris, du peuple cri de la baie James, qui à l'époque avait résisté, ou en fait s'était opposé au développement hydroélectrique que le gouvernement de Robert Bourassa voulait mettre de l'avant plutôt dans le nord, sur le territoire en Jamésie, sur le territoire de la baie James, où les Autochtones, les cris vivaient, et vivent encore d'ailleurs, et c'est ce qui va donner lieu à l'accord de la baie James en 1975, parce qu'ils ont été en cours, là, il y a eu l'accord Malouf, la décision Malouf, qui a dit non, vous ne pouvez pas, il faut que vous négociez avec, qui dit au gouvernement québécois, vous devez négocier avec les Cris pour faire une entente si vous voulez aller sur leur territoire. Je parle de ça parce que ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en 1969, on voulait faire disparaître les Autochtones. 6 ans plus tard, finalement, on dit « OK, on réécoute leur voix ». Parce que finalement, l'accord de 75, la baie James, la convention de la baie James, c'est les Autochtones se sont assis, les Cris se sont assis à la table avec les gouvernements canadiens et québécois. Donc, on les écoutait comme ils redevenaient des interlocuteurs valables, des interlocuteurs que l'on devait écouter et à qui on devait parler. Et c'est ça qui est intéressant dans ces développements après les années 70, les années 80. Et on va voir un mouvement, c'est pas juste au Québec, mais c'est à travers tout le Canada. Sauf que, en dépit du fait que, bien sûr, les Autochtones aient fait des gains assez importants, je pense que l'accord de la baie James en est un, il y a eu d'autres accords, l'accord Nishga en Colombie-Britannique, création du Nunavut, différentes décisions de la Cour suprême du Canada qui, en fait, sont des gains véritables pour les Autochtones. Il reste que, et je pense que c'est là l'enjeu fondamental, c'est que tant que ça se passe à l'intérieur des normes, des paramètres institués par l'État canadien, des paramètres historiques aussi institués par l'État canadien, ça va. On s'entend, oui. On vous écoute. Mais dès que, et je pense que c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années de plus en plus, Je pense qu'I Don't Know More, aussi le mouvement de femmes, des femmes autochtones qui sont en train de se décider dans la foulée bien sûr des meurtres et des assassinats et des abus, des violences qui ont été faites aux femmes autochtones depuis 30 ans. Ça aussi nous amène vers un nouveau discours. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est trop tôt encore pour dire ce que ça va donner. I Don't Know More fait partie de cette mouvance-là. Trop tôt encore pour dire ce que ça va donner. Ce dont j'ai peur, et quand tu me demandes est-ce que une remise en question profonde du statut de la société dominante dans un État libéral est possible, à mon avis, je pense que ça demanderait beaucoup de « soul searching », comme on dit en anglais, et de la part de la société « settler », de la société et de l'État canadien. Et je ne pense pas que nous en sommes là. Nous en sommes très loin, en fait, parce que, et on l'a vu au cours des dernières années, à chaque fois que les Autochtones font un pas en avant ou sont prêts à faire un gain ou font un gain réel, c'est souvent remis en question. On l'a vu, par exemple, en 2002-2003-2004, lorsqu'il y a eu, par exemple, sur la Côte-Nord, un accord avec les Innus, la fameuse approche commune. Il y a eu un mouvement de résistance et d'opposition assez important qui venait des populations non-autochtones. Et très souvent, ce qu'on disait dans ça, c'est que les Autochtones, les Innus vont avoir trop de pouvoir ou ils vont avoir des avantages économiques que nous n'avons pas, alors que les communautés autochtones, les Innus, les communautés Innus dans ce coin-là, ce sont des communautés où, en général, le taux de chômage est très élevé, où il y a des gros taux de dysfonction, des taux de dysfonction sociétale assez importants aussi. Et puis, dans le fond, on n'enlève rien. C'est faux que les Innus enlèvent quelque chose aux populations locales. Ça s'est vu aussi dans le cas de Burnt Church au Nouveau-Brunswick, lorsque, après l'accord, l'arrêt Marshall, la Cour suprême a dit « Oui, vous avez le droit, dans ce coin-là, c'était le Mi'kmaq, au Mi'kmaq, vous avez le droit de pêcher au Malécite aussi, vous avez le droit de pêcher, pas de problème, allez-y. » Mais les communautés environnantes, non autochtones environnantes, se sont opposées parce qu'ils ont dit « les Autochtones, parce qu'en vertu de l'arrêt Marshall, ils pouvaient pêcher quand ils voulaient, la pêche au mort. Alors que les pêcheurs non autochtones, eux, ils sont soumis à des réglementations assez importantes, assez contraignantes aussi. Tu ne peux pas pêcher n'importe quel. Puis là, vous allez nous prendre tout le monde au mort. Puis, bref, on sentait que, et c'est pour ça que je reviens à mon argument économique, dès qu'on a l'impression que l'Autochtone se trouve en situation possible de pouvoir ou de contre-hégémonie, ou de présenter un contre-discours qui pourrait être menaçant, il y a toujours un mouvement de recul de la part de la société non autochtone, de l'État aussi parfois, souvent, de l'État, parce que, juste pour vous donner un exemple, je reviens à mon exemple de l'approche commune, il y a eu un accord de principe qui a été négocié, qui a été signé en 2004, on est en 2015, on est en 2016 bientôt, c'est en avril 2004, donc dans cinq mois, ça va faire 12 ans. Et en général, après un accord de principe, tu vas tout de suite à l'accord final dans les un an et demi, deux ans gros maximum. Et alors, on n'a toujours pas d'accord de final. Et même ce qu'on devait donner, ce que les gouvernements avaient consenti dans l'accord de principe, il y a des reculs en ce moment. Le gouvernement fédéral recule sur plein de choses, comme entre autres la reconnaissance du droit autochtone, du titre aborigène et du droit sur le territoire. Donc, il y a des reculs constants. Et c'est pour ça, quand tu me dis, parce que moi, non, je reste assez peu optimiste, parce que fondamentalement, il y a toujours cette idée que, et dans un esprit, enfin, dans une société capitaliste, il y a toujours cette idée que l'autre, surtout si l'autre est vraiment différent culturellement en plus, ça aide pas, que cet autre va nous prendre quelque chose. Et on est toujours dans cette mouvance-là. Et tant qu'on ne sortira pas de cette mouvance, tant qu'on ne comprendra pas que pour faire avancer les choses, faire transformer les choses véritablement en ce qui concerne les rapports entre les Autochtones et la société autochtone, il faut véritablement remettre en question, ou même admettre d'abord qu'on est en situation d'hégémonie, puis remettre en question cette hégémonie-là, se dire, dans une société libérale démocratique, dans une société qui se veut juste, une société qui est basée sur la justice sociale, est-ce qu'il est normal que j'exerce cette hégémonie-là? Puis si on est prêt à dire non à cette question-là, ben on a un problème. Et je pense que justement, on n'avance pas. Je vais arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit, mais c'est ça. En gros, c'est le background.